Je suis émerveillée du fil rouge que Dieu déroule ce matin devant nous, depuis notre entrée à l'église jusqu'à présent. Florence, je crois que je t'ai coupé l'herbe sous les pieds. Je suis désolée. Merci. Suis émerveillée. Merci Seigneur. Merci au groupe de louanges. À vous qui êtes à la maison, à vous qui êtes ici ce matin, j'aimerais poser une question. Quelles sont les premières paroles que vous avez dites à Dieu, ou que vous avez dites à vous-même, ou que vous avez dites à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, non, moi pas, je sais plus. Mais ça peut être des paroles de salutation, bonjour, comment ça va? Et parfois j'entends cette réponse, ça va bien par la grâce de Dieu, ça va bien, merci. Eh ben, j'essaye de prendre exemple. Parce que moi, quand on me demande comment ça va, j'ai envie de, parfois, de raconter ma vie. J'ai envie de dire mes états d'âme, d'étaler tout ce qui se passe là-dedans. Et je trouve que ça reste un challenge quand on marche avec Dieu. Depuis des années de maîtriser ses paroles, de pas se laisser emporter, de pas, voilà, de pas trop en dire. Et je me fais souvent avoir. Il y a des automatismes, vous êtes d'accord, qui ont la vie dure. Et combien de fois j'ai regretté d'avoir parlé trop vite, d'avoir dit ce qu'il fallait pas dire ou d'avoir pas dit ce qu'il fallait dire. Par la grâce de Dieu, ça va. C'est comme si dans ces saintes paroles, la présence de Dieu, sa paix, venait s'installer. Il y a des paroles comme ça, toutes simples, qui sont données à des frères et sœurs, et qui non seulement nous font du bien, mais qui nous poussent dans notre marche avec le Seigneur, qui sont des déclics, des compréhensions, parce qu'on se dit, ah, mais moi, j'aimerais parler comme ça. J'aimerais transmettre ça. J'aimerais être comme ça. Donc les paroles qu'on prononce, elles ne sont pas anodines. Elles amènent un climat. Proverbe 10, 11. La bouche du juste est une source de vie. Non seulement pour ceux qui nous entendent, mais pour nous-mêmes aussi. Personnellement, quand je suis au saut du lit, que je me réveille, c'est pas la même chose si je dis, ah, mon âme bénit l'Éternel, que si je dis, oh, pff, encore ce brouillard ce matin, enfin, pas ce matin, mais il y a quelques jours, oh, encore une journée pourrie. C'est pas la même chose, vous êtes d'accord? Donc le sujet que j'aimerais aborder ce matin avec vous, c'est un sujet qui concerne premier étage, c'est les pieds, le deuxième étage, c'est les genoux. Le troisième étage, c'est le cœur. Le quatrième étage, c'est la parole. Et c'est de cet étage-là, de notre parole, de ce qui sort de nos bouches, du fruit de nos lèvres, de notre langue, que j'aimerais essayer de partager avec vous. On sait tous que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle, mais pour ne pas me perdre, j'aimerais me limiter à ce qui se passe à cet étage-là. Pour deux raisons. La première, c'est que l'Église tout entière, elle reste fragile, vous êtes d'accord, dans le domaine de ce qui sort de notre bouche. Entre nous, on a vraiment besoin constamment de veiller sur nos paroles. Même dans nos messages WhatsApp. Combien de mouvements d'église, combien d'œuvres de Dieu, combien de mouvements de l'esprit, d'église, de serviteurs de Dieu ont été atteints, ont été divisés par des enfants de Dieu qui étaient certainement bien intentionnés ou non et qui n'ont pas maîtrisé leurs paroles, qui se sont laissés emporter parce que ça commence de chauffer, parce que ça devient difficile. Et notre église de réveil, elle aussi, a passé par là. Et je pense que c'est bien de ne pas l'oublier, parce que ça a généré vraiment beaucoup de souffrance. Et puis la deuxième raison, pourquoi ce sujet, c'est que André, il y a quelques semaines, tu nous as parlé, tu nous as rappelé qu'on est ambassadeur de Christ, qu'on est porte-parole, et ça n'a pas arrêté de me suivre. Et dans l'immense débat de l'actualité planétaire, ben une parole, qu'est-ce que ça peut faire la différence? Face à ceux qui nous entourent, qui nous côtoient, quelle responsabilité! Quelle tristesse quand nos paroles, vous êtes d'accord, quand nos paroles, elles reflètent pas la proximité qu'on a avec le Seigneur. Quand nos paroles, elles reflètent pas l'amour. Que son amour peut pas passer au travers de nos paroles. Quelle tristesse quand notre attachement à lui, notre profond désir de rester dans sa présence n'est pas là. Ne sort pas par notre bouche. Alors voilà. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu à la porte de notre bouche. Il y a un enjeu, une bataille spirituelle parfois. Notre bouche, c'est comme un bastion, une porte de chair et d'os avec une musculature capable d'ouvrir, de fermer. Et c'est là que viennent se bousculer toutes nos pensées. Tout ce qui sort de notre âme. En fait, c'est la dernière séparation entre le dedans et le dehors. Merveilleux mécanisme, vous trouvez pas? Puisque si ma bouche reste fermée, ma langue, elle peut s'agiter dans tous les sens, il n'y a personne qui le verra. Et surtout, ça ne fera pas de dégâts à l'extérieur. Et c'est aussi le tout dernier espace, le dernier moment où je peux choisir si je veux ou non laisser sortir toutes les paroles qui se pressent derrière cette porte, derrière mes lèvres. De la Genèse à l'Apocalypse, la parole, elle nous met en garde. Veille, surveille, garde, mets un frein à ta langue. Et l'épître de Jacques aussi que je vous encourage à relire. En particulier, Jacques est très 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 précis. Mais je vais juste revenir aux proverbes. Les proverbes foisonnent d'images. Notre parole, elle peut être soit de l'argent affiné, soit une embuscade, un piège. Un piège pour les autres, mais aussi un piège pour nous-mêmes quand on se fait rattraper parfois par nos paroles. Soit une délivrance, soit une épée qui blesse, une épée même qui peut tuer. Soit un baume de guérison, soit un déguisement, l'hypocrisie par exemple. Soit une friandise, la calomnie par exemple. Et je vous invite maintenant à lire avec moi l'épître de Jacques, dans Jacques 3, versets 5 à 11. Jacques 3, versets 5 à 11. De même, notre langue est un petit membre. Elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, par elle, nous maudissons les hommes. Fait à l'image de Dieu, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Je vais m'arrêter là. La comparaison avec le feu, elle est terrible. Une petite étincelle et le feu, bah, il part, il s'embrase. Il peut tout ravager. Et un autre constat tout aussi terrible, c'est par elle, la langue, ce tout petit organe de rien du tout, que nous avons le pouvoir de faire deux choses à la fois qui sont complètement antagonistes, irréconciliables. Bénir le Seigneur, dimanche matin, le louer, l'adorer et maudire les hommes qui sont faits à son image. Rentrer à la maison et commencer à critiquer le voisin parce qu'il a mal parqué son auto, de nouveau devant ma porte, et commencer de traiter extérieurement ou intérieurement, notre enfant, notre conjoint, notre tout proche, de le traiter ben pas de la bonne façon, se dire ça changera jamais avec lui. Voilà. Cette langue, elle est vraiment enflammée par quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça nous ramène à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous êtes d'accord, notre bouche à l'origine, est-ce qu'elle fait partie de tout ce que Dieu a déclaré très bon? Oui. À l'origine, quand Dieu a façonné l'homme et la femme, il a dit, c'est très bon, y compris notre langue. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme et la femme muets? Il aurait pu, hein? Faire simplement que cette langue serve à déguster les merveilleuses choses qui étaient à leur disposition dans ce jardin. Mais il a façonné cette langue avec une complexité remarquable pour qu'elle soit capable d'articuler des paroles, pour qu'elle soit capable d'exprimer l'émerveillement, la joie, la reconnaissance à Dieu, l'adoration à Dieu. Voilà ce pourquoi elle a été créée. Pour être en relation, Adam et Ève avaient besoin d'être en relation, parce qu'il en fallait de la communication pour gérer les soins apportés à ce merveilleux jardin. Imaginez, moi j'aime imaginer ces premiers moments quand j'ai relu ces passages où Dieu fait venir toutes les créatures devant Adam et Ève. Ève, je suis pas sûre, mais devant Adam, pour qu'il leur donne un nom. On imagine Dieu qui se réjouit et la parole dit, Dieu voulait voir comment Adam les appellerait. C'est quand même incroyable. Il se réjouit d'entendre ces paroles, ces mots par lesquels Dieu va identifier toutes les créatures. Quelle place, quelle valeur, quelle importance, quelle confiance Dieu accorde à la parole de l'homme, à sa créativité. Mais voilà que la chute, que par la chute, la langue de l'homme devient ce qu'elle est devenue. Créée pour glorifier le Créateur, pour communiquer, apporter sa créativité dans ce monde, elle devient l'instrument d'accusation de mensonge. Voilà, par le péché, elle est touchée par le feu de l'enfer. Alors, est-ce que c'est pour autant que Dieu a abandonné son projet initial pour notre langue? On pourrait se dire que si notre langue est indomptable, si elle est à ce point-là irrécupérable, si le verdict est sans appel, il vaut mieux laisser tomber. De toute façon, plus on essaye souvent de se donner de la peine, pire c'est. En tout cas, moi. On pourrait aussi relativiser et se dire, c'est pas si grave que ça, ce que je dis. Pourquoi il se vexe toujours? C'est pas si grave. Faut quand même pas exagérer. Mais si, c'est grave. Alors moi, j'aimerais vous encourager, vous exhorter, parce que Dieu, il est toujours autant concerné par ce qui sort de notre bouche. Il y a ce cri dans Jacques 3. Il y a ce cri de Jacques qui dit « Il ne faut pas que ça soit le cas. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, que ta bouche soit double. Double discours. Il ne faut pas. » Pourquoi Jacques dit cela? Parce qu'il y a une possibilité. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire autrement. Oui, c'est possible que notre langue retrouve ce pourquoi elle a été créée. Dans Apocalypse 12, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Donc il y a de la marge, donc il y a de la progression. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que notre langue, elle ne nous appartient plus. Elle est rachetée par le sang de Christ à la croix, au même titre que notre personne tout entière. Elle est devenue la propriété du Seigneur. Le feu de la croix la délivre de la puissance du diable. Le feu de la croix, il est plus fort que le feu de la géhenne. Le feu de la croix, il a triomphé. La mort de Christ, elle a triomphé. C'est bien, c'est juste de confesser Christ, de témoigner. Mais, hors de ces moments où je suis en plein témoignage avec quelqu'un, c'est génial. Mais hors de ces moments, ou en plus de ces moments, est-ce que ma parole n'a pas d'importance? Quand je retourne à la maison, surtout avec nos proches, je trouve que c'est un challenge. Que ma langue soit l'instrument du Seigneur. Alors notre langue, oui, elle doit passer par une purification journalière. Elle doit passer par la consécration. Elle doit passer par l'obéissance, elle aussi, au Saint-Esprit. Elle doit se conformer à la parole. Et si la parole nous parle de progression, c'est que c'est possible, non? Alors, comment savoir pratiquement à quel moment je dois parler? À quel moment je dois me taire? Qu'est-ce que je dois dire? À qui je dois le dire? Comment le dire? C'est vaste. Psaume 104, 34. Est-ce que vous le connaissez? Psaume 104, 34. C'est une prière du psalmiste. Seigneur, que mes paroles te soient agréables. Seigneur, que mes paroles te soient agréables. Je crois que du moment qu'on se met à faire cette prière, il y a des déclenchements, il y a des choses qui changent parce que Dieu voit nos désirs. Seigneur, que mes paroles te soient agréables. Souvenez-vous, Galates 5, 22, 23. Et là, vous allez m'aider parce que je suis sûre que vous le savez par cœur. Le fruit de son esprit, c'est l'amour. Ça, c'est l'étage du bas. Enfin, ou l'étage du... Non, l'étage du bas. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Et ouf, ouf, pour cet étage ici, il y a la maîtrise de soi. Et je crois vraiment que si on fait cette prière, Seigneur, que mes paroles te soient agréables, ben cet endroit va être visité. La maîtrise de soi va pouvoir commencer de s'installer. Le fruit de l'esprit va venir. Là où se joue l'enjeu spirituel, là où se jouent les paroles de ma bouche. J'aimerais vous donner un témoignage. C'est de nouveau un témoignage familial. Quand on se retrouve avec toute notre famille, avec nos garçons, nos belles-filles, nos petits-enfants autour de la table, eh bien, ça discute, ça part dans tous les sens. Il y a des plaisanteries qui fusent. Ouais, ça va bon train. Et je vais vous donner un exemple de plaisanterie que moi je prononçais de façon récurrente, qui était un peu, voilà, ça alimentait les moments de creux. Et je plaisantais sur la façon dont Jean-Pierre utilise, quand il fait la cuisine, cinq, six casseroles, puis qu'il y a tout qui s'étale comme ça sur le plan de travail, et puis, alors que moi, j'en utilise une ou deux, alors que moi, je suis hyper organisée, ta ta ta. Et puis, on rigole avec ça, c'est tout gentil. Il n'y a pas de mal. Et puis, voilà que quelqu'un d'autre prend le relais, là, autour de la table, et puis dit, ah ben, tel père, tel fils, ah ben, chez nous aussi, fou, qu'est-ce que ça peut m'énerver? Et gentiment, le ton monte, et puis gentiment, il y a quelque chose qui s'installe qui est plus de l'ordre de la plaisanterie, mais qui devient gentiment de la critique, quelque chose qui, voilà, on n'est plus trop à l'aise avec ça. Ça devient un peu tendu tout ça. Et étonnamment, ça dresse la jante féminine contre la jante masculine. Alors, un soir, quand tout le monde était parti, le Saint-Esprit m'a montré clairement, mais vraiment clairement, qu'il était attristé que je ressorte tout le temps cette même plaisanterie. Et il m'a donné une clé, il m'a vraiment montré tout de suite qu'est-ce que je pouvais être dans ma dire dans ma parole. Il m'a dit, mais pourquoi tu racontes pas la prochaine fois ce qui se passe déjà des fois et ce qui commence à progresser entre nous avec mon mari quand on prépare, quand on fait la cuisine? C'est-à-dire que Dieu te permet déjà de bénir Jean-Pierre dans sa différence, dans une façon de fonctionner, mais qui est complètement à l'opposé de toi. Ça, c'est vrai que je le faisais déjà, mais je ne le racontais pas. Enfin, c'était encore tout petit. Voilà un exemple. Ma langue doit se soumettre au Saint-Esprit. Et la fois prochaine, j'espère vraiment avoir de nouveau une occasion de dire, ben, ça va mieux avec mon mari quand on prépare un repas, parce qu'on se bénit mutuellement, on fait équipe, c'est génial. Ça frotte, mais il y a quelque chose que Dieu nous donne pour être unis. Alors prenons l'habitude, chaque matin, là où on est, pendant nos journées, pendant nos conversations, surtout celles qui paraissent anodines, de lui dire, Seigneur, que mes paroles te soient agréables. Prenons l'habitude de lui dire, Seigneur, je te consacre ma langue. C'est une nouvelle étape, je crois, à l'écoute du Saint-Esprit. Ça va pas changer d'un coup. Ça bataille toujours à la porte de mes lèvres. Ça va même des fois être plus intense, plus douloureux de retenir ou de dire ce que Dieu nous demande de dire et puis qu'on n'avait pas envie de dire. Ça va piquer. Mais je crois que vous allez être, puis on va être de plus en plus émerveillés de ce qui se passe. Dieu nous redonne une parole créatrice, une parole fraîche. Dieu nous délie de nos automatismes. On va prier. Seigneur, tu es là, tu es au milieu de nous, tu nous dis que toutes tes paroles sont esprit et vie, et on voudrait tellement que les nôtres le soient aussi. Merci de m'aimer, merci de nous aimer au point de continuer de me confier cette tâche d'ambassadeur, de porte-parole, pas seulement quand je suis dans mon ambassade, mais quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis là où tu m'envoies, là où je dois être. Seigneur, merci d'être mort sur la croix. Merci d'avoir accepté d'être livré au feu de l'enfer pour que ma langue aussi soit dégagée du pouvoir de la méchanceté, pour que ma langue devienne instrument de justice. Je te demande pardon pour toutes les paroles qui t'ont offensé. Je te demande pardon pour toutes les paroles qui ont offensé mon prochain, mon parent, mon cher ami, mon voisin, mon enfant. Je te demande de purifier ma langue de toute parole vaine, de toute parole équivoque, de toute parole manipulatrice, de toute parole vaniteuse, et tellement de choses encore. Je te la livre, cette langue, je te la reconsacre. Je te la consacre peut-être pour la première fois, mais je te la consacre. Et pour tous ceux qui, ici ou à la maison, qui de tout leur cœur veulent faire cette démarche, je vous invite à fermer les yeux, à mettre vos deux mains sur votre bouche et murmurer. Seigneur, je choisis de te consacrer ma bouche, ma langue, le fruit de mes lèvres. Seigneur, que mes paroles te soient agréables. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.